Je me souviens, on était en juin ou juillet de l'année 2028. Je sais plus exactement. Bref, comme tous les jours, j'arrive à l'usine où je travaillais en tant que mécanicienne automobile. Ce matin-là, mon collègue d'atelier vient me voir et me prévient que la direction souhaite tous nous voir, l'après-midi même. Et là, le verdict tombe. Plan social, tous licenciés. Le choc. Mon boulot, c'était ma vie. J'ai toujours aimé la mécanique, aller au fond des choses, comprendre leur fonctionnement, dépasser leur complexité. Une passion et une obsession héritées de mon père, sûrement. J'étais sa seule enfant, sa seule fille, et à défaut, il m'a tout transmis. Quant à moi, je n'ai toujours su faire que ça, et voilà que ce jour-là, je me retrouve sur une autoroute sans perspective. Deux ou trois jours plus tard, c'est le coup de grâce. Je reçois un coup de téléphone du centre de fertilité. Après 2 ans d'essai, ça y est, ça a marché, je suis enceinte. Sincèrement, je n'y croyais même plus. Et voilà qu'au pire moment, ça me tombe dessus. Je suis sidérée, perdue dans le vide, j'arrive plus à penser. Je m'effondre sur mon canapé, et mécaniquement, j'allume la télé. Flash spécial. 10e départ de feu dans la région en 3 jours. Avec 37 degrés au thermomètre et plus aucune pluie depuis 2 mois, la Normandie est devenue un véritable brasier. Super. J'ai plus de boulot, je vais avoir un gosse et je vais devoir l'élever sur une planète qui part en sucette. Mon monde s'écroule littéralement. Et en même temps, je crois que c'est vraiment à cet instant qu'un autre a commencé à naître. Comme à chaque fois dans ces moments-là, je fais la seule chose qui a encore un peu de sens pour moi. J'enfile mes baskets, j'enfourche mon deux roues et je pédale, 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 jusqu'à n'en plus pouvoir. Jamais j'aurais imaginé qu'une issue se présenterait là, devant moi, comme une révélation. Je venais d'atteindre le passage à niveau d'une ancienne ligne de chemin de fer, et je tombe sur ce gamin, 8 ou 9 ans. Après coup, je me rends compte que je lui ai jamais demandé son nom. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a changé ma vie. Lui ou son vélo, allez savoir. Il avait déraillé et ça faisait une bonne demi-heure qu'il essayait de se dépatouiller, en larmes. Je l'ai aidé et ça m'a pris quoi ? 5 minutes ? Reste qu'en échange, il m'a offert toute sa vie, qui se résume en un nom. Teddy, son doudou. Pour la première fois, j'ai compris ce qu'était la gratitude. Non pas celle que j'ai lue dans ses yeux, mais celle qui a commencé lentement à remplir le fond de mon cœur. Et depuis ce jour, tout a changé. Aujourd'hui, on est en 2050, et ça fait 22 ans que je répare des vélos dans une ressourcerie du coin. J'ai un fils, du même âge, épanoui dans sa vie et heureux dans ses choix. Il étudie les insectes à l'université. Son truc à lui, comme il dit, c'est la mécanique du vivant. Encore un gosse, le mien cette fois, pour me donner ma seconde et plus belle leçon de vie. À savoir que le vivant est probablement la plus complexe mais la plus ingénieuse et merveilleuse des machines. Et ça, aujourd'hui, je crois qu'on l'a enfin tous compris. La transition désirable. Ce que vous venez d'entendre est l'un des textes imaginés lors de l'atelier d'écriture prospective Révolution, organisé dans le cadre du Turfu Festival qui s'est déroulé à Caen entre le 8 et le 13 avril dernier. Interroger, éclairer et concevoir le monde de demain, voilà donc la raison d'être de ce festival lancé en 2016 et coproduit par le Dôme, l'Université de Caen-Normandie et Tannelorn. Le futur, le Turfu, c'est ce qu'on vous propose d'explorer ce soir pour cette 61e émission de Bonjour Turbine, en direct sur Station B à Caen et en différé sur Radio Pulse à Alençon. À mes côtés ce soir, un quintet de turbineurs composé de Thomas, David, Alain, Lafken à la rédaction et de Marion à la technique. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir
Florian.
Bravo pour ce texte,
oui,
c'était magnifique.
Bravo.
Alors ensemble et avec notre invité, nous allons revenir ce soir en première partie sur le Turfu Festival, son ambition, ses objectifs et vous proposer un petit aperçu des rencontres et ateliers qui s'y sont déroulés. Et en deuxième partie d'émission, nous allons continuer à nous projeter dans l'avenir avec Lafken Langlois, Fab Manager de la Microfolie de Colombelle. Alors sans plus tarder et pour démarrer ce voyage à travers le temps en quête de futur, on commence avec un arrêt au présent. Le Turfu Festival Kezako. Thomas, tu veux bien nous en dire un peu plus ?
Eh bien oui, je veux bien vous en dire un peu plus. Alors le Turfu Festival, éclairer le présent, explorer les futurs possibles et cultiver l'esprit critique. Voilà la promesse du Turfu Festival, premier festival de science, recherche et innovation participative en France. Un festival pour conjuguer notre monde au passé, présent et futur et trouver collectivement des solutions pour des modes de vie et des lendemains plus épanouissants. Le Turfu Festival était de retour la semaine dernière et pour sa 8e édition, il était tourné vers le vivant sous toutes ses formes. Alors comment entretenir son corps, sa santé et l'environnement, mais surtout s'entretenir les uns avec les autres pour produire de la connaissance et des pistes de solutions. Durant 5 jours, le festival s'est intéressé à la biodiversité, l'urbanisme et la transition énergétique, ou s'est encore interrogé sur l'intelligence artificielle, le vote et la démocratie, les mobilités. Bref, près d'une semaine d'ateliers, de débats, de rencontres, de soirées et de journées en famille pour explorer et ouvrir le champ des possibles à la lumière des intervenants qualifiés et décidés à guider des citoyens motivés à réfléchir et agir. Car oui, le Turfu Festival permet d'une part aux participants d'acquérir des connaissances en s'informant à la source de la science actuelle et d'autre part d'échanger des idées en apportant leurs expériences au service du collectif pour trouver des solutions à des problèmes concrets. Venir questionner la recherche et l'innovation avec un esprit critique, trouver les clés pour mieux comprendre les enjeux de notre époque et contribuer à réinspirer la société, voilà donc l'objectif de cette manifestation.
Merci Thomas pour cette présentation et nous retrouvons désormais Jean Le Sérieux, l'un des invités un peu spécial du Turfu, spécialiste expert et maître en conférence de l'université. Aujourd'hui, il vient nous parler de Disney et du réchauffement climatique.
Tout à fait. Alors, lorsque j'étais petit, évidemment, je n'étais pas grand et je lisais le journal de Mickey. Et maintenant que je suis grand, je ne suis jamais senti aussi petit et je lis toujours Mickey. On appelle ça être accro à la BD ou le complexe du Lilliputien. D'ailleurs, je me suis fait tout petit devant une poupée à l'arrivée dans nos médias d'une petite créature issue de la mythologie nordique qui profère des augures des plus alarmants, mais bien réels à propos du réchauffement climatique. Il s'agit de Greta Thunberg. Cette jeune Suédoise, moitié Fifi Brin d'Acier, moitié Zora Larousse, une petite elfe qui souffle le chaud et le froid sur les populations du globe, qui continue à épuiser la planète en polluant le sol et l'atmosphère. D'ailleurs, avec elle, chacun en prend pour son grade. Alors parfois, on se sent coupable, on veut alléger notre empreinte carbone et soulager notre conscience. Arrivent les sept nains de Disney. Eh ho, on va se mettre au boulot. Alors on trie, on composte, on baisse la radio et le chauffage d'un degré. On évite de trop se changer, on se lave juste le bout du nez. Chacun reste dans son joug pour économiser l'eau. Béni qui se fait attendre ou ailleurs tombe du ciel en abondance et provoque des inondations. Et à côté de cela, ça cogne tellement qu'on n'a même pas besoin d'allumer le barbecue pour rôtir les saucisses, tout est grillé, même les sauterelles de l'apéritif. Mais sur la Terre, tout est lié, tout se tient. Si on écrase un moustique ou un ver de terre à Villedieu-les-Poêles, ça peut déclencher un séisme à San Francisco, bouleverser tout l'écosystème. C'est une calamité qu'il faut combattre au niveau national. J'entends d'ici le général de Gaulle. Paris, plage, c'est bien joli, mais Paris brûle-t-il? Ah, Paris meurtri, Paris incendié, Paris inondé, et Paris libéré des touristes et de la pollution. Que mon camarade Thomas me pardonne, mais pâles imitations se limitent pour l'instant juste au général de Gaulle. Pour rester en région parisienne avec Disneyland, saviez-vous que Bambi avait péri dans un incendie dû au réchauffement climatique? Eh bien, sachez que Bambi 2 et son frère Bambi 3 ont également rôti de la même façon cet été. Un destin crématoire héréditaire, semble-t-il. Quant à Elsa, la reine des neiges, elle a été malheureusement aussi fondue, elle a fondu aussi, elle, du coup, sous les rayons de Cupidon. Maigre consolation, on peut la retrouver sous forme de levure dans les sachets d'Alza. Merci d'avoir une pensée pour elle en mangeant de la crème. Autre mauvaise nouvelle, il paraît que le roi lion, Dumbo et Babar, entre autres, sont victimes du commerce des braconniers. C'est pas marrant, mais mettez-vous à leur place, je voudrais bien vous y voir, comme disent les trafiquants. Les députés européens sensibles au lobby viennent de prolonger l'usage du glyphosate pour 3 ans. Ça va encore être pour ma pomme, se dit Blanche-Neige. Et oui, quand on a été empoisonné une fois, on se méfie. Et la solution dans tout ça, elle a été proposée par les Chinois qui ont inventé la poudre et viennent de passer au tout électrique. Pas de dégagement de CO2, pas de bruit, pas de circulation automobile, pas de déchets polluants terrestres. Bravo! Pour en arriver là, ils ont creusé la terre et trouvé au miracle une roche noire appelée charbon, qu'ils ont extraite puis brûlée, produisant ainsi à grande échelle de l'électricité pure. Ce cycle n'est pas totalement vertueux, car le charbon produit à la marge un effet de serre qui pourrait bien nous éradiquer à coup sûr. Autrement dit, on cherche à produire de la crasse propre, comme dit Mimi Mousse en faisant la lessive. Coluche avait raison, ça existe. En tout cas, le grand méchant loup est sorti du bois avec raptou et patibulaire et ils veulent couper les arbres. S'il existe encore des optimistes ou climato-sceptiques, je leur tire ma calotte glaciaire qui dégouline à vue d'œil sur mes deux épaules nord et sud. Chers amis, en attendant hélas que la mer monte à cause du réchauffement climatique, je vous salue quand même chaleureusement. Vive Turfu, le seul festival qui fait l'éloge de ma folie.
Bravo! Bravo, la magie de Disney, quoi.
Merci David, alias Jean Le Sérieux, pour ta chronique. Thomas, à ton tour, t'aurais bien une petite CPV à nous proposer. Alors je précise pour les néophytes, CPV, capsule pédagogique et véridique.
Oui, eh bien, le saviez-vous qu'il était possible de mesurer la qualité du ciel de Caen en comptant les étoiles dans un rouleau de papier toilette, alors savamment appelé le SPQ-mètre. C'est ce que proposait un atelier du Turfu, atelier loufoque, mais non moins sérieux, visant à établir un protocole d'observation réalisé par et pour les citoyens-citoyennes. L'objectif ? Appuyer les politiques publiques d'adaptation et d'amélioration de l'éclairage nocturne pour lutter contre la pollution lumineuse.
Merci Thomas, capsule forte éclairante sans mauvais jeu de mots. Alors sans transition, on enchaîne avec une première pause musicale et le gigantesque Goliath de l'artiste lyonnais Woodkid. Un titre coup de poing sorti en 2020 après plus de 7 ans d'absence entre science-fiction industrielle, ouvriers masqués, ambiance post-apocalyptique et humanité perdue dans la monstruosité qu'elle a elle-même créée. Pas très réjouissant donc, mais on y retrouve tout l'univers organique, minéral et futuriste de l'artiste. Goliath de Woodkid, c'est parti.
Sustained heart pain and a dark fever. How did I get fooled by such a savage curse? The more I forgive you, the more it backfires. Now you're dancing through the smoke like nothing else matters. Where are you going, boy? Where did you get so lost? How could you be so blind? How could you be so blind?
Retour en direct sur Bonjour Turbine qui s'intéresse aujourd'hui au futur. Sauf qu'éclairer le présent, aborder l'avenir, c'est aussi et avant tout s'intéresser au passé. Prenons donc le rebond de la 8e édition du Turfus Festival qui s'est déroulée à Caen la semaine dernière pour explorer le passé avec notre invité du jour. Car oui, nous nous apprêtons à célébrer le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, probablement les dernières commémorations auxquelles des vétérans et les témoins civils pourront participer. Nous entrerons bientôt dans une ère où le souvenir de la bataille de Normandie sortira du temps présent sans témoins que nous pourrons interroger directement. Comment nous souvenir quand ces derniers témoins disparaîtront? Comment même nous souviendrons-nous dans 20 ans? Comment partager ce que l'on sait des événements, leur contexte, se servir du passé pour éclairer notre présent et notre futur? Et comment s'engager en mode collaboratif avec les outils du 21e siècle? Voilà quelques-unes des questions posées en amont de l'atelier Mémoire en partage qui s'est déroulé mardi 9 avril dans le cadre du Turfu. Et pour nous en parler ce soir, nous accueillons Fanny Hubard-Salmon. Bonjour Fanny.
Bonjour, j'approuve totalement le choix musical. Merci.
Merci beaucoup. Alors vous êtes là ce soir parce que vous avez co-animé l'atelier Mémoire en partage, donc organisé dans le cadre du Turfu Festival, comme je le disais. Mais avant de rentrer dans le détail, une question simple, mais non moins assez complexe aussi. Pourquoi, selon vous, la mémoire est-elle aussi essentielle au futur ?
Alors déjà, j'espère qu'elle nous permettra de continuer à nourrir nos curiosités. Et j'espère que nos curiosités ne vont pas disparaître dans le futur. Mais aussi, je pense que c'est important de se souvenir pour éviter, pour comprendre déjà et puis pour éviter de répéter les mêmes schémas. Malheureusement, on voit dans l'histoire de l'humanité des cycles qui se répètent, des signes qu'on peut reconnaître comme certains qui me touchent tout particulièrement quand on commence à interdire et à brûler les livres, c'est jamais vraiment bon signe.
D'accord. Alors avant de poursuivre dans cette direction, vous présenter un petit peu, vous êtes fondatrice et directrice créative de l'agence Fulfilled Agency, une agence de communication multiculturelle de part et d'autre de l'Atlantique. Vous dites aimer plonger profondément dans les archives, explorer notre passé pour apporter une nouvelle lumière à notre présent. C'est une belle promesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Fulfilled Agency ?
En fait, j'ai créé cette entité à la base pour raconter des histoires. Je suis journaliste, réalisatrice de documentaires et j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager, faire des reportages à travers le monde. Et j'avais des clients qui... J'étais principalement dans le domaine du cheval, mais avec un vrai intérêt pour l'histoire. J'avais toujours tendance à dévier un petit peu vers l'histoire, vers la culture. Et j'ai eu des clients qui ont voulu travailler avec moi directement. Donc à la base, c'était vraiment juste pour pouvoir travailler en direct avec les gens. Et puis ça a évolué. Et c'est vrai que de plus en plus, je suis aussi intéressée par des projets où on se retrouve et on fait collaborer des gens d'horizons divers, avec des perspectives qui peuvent rentrer en collision, mais en collusion aussi. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et c'est également une des promesses du Turfu. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce festival. J'ai eu la chance d'y assister depuis plusieurs années, de participer plus en tant que... Voilà, être une participante. Et puis, c'était la première fois que j'ai proposé un atelier. Et je suis contente qu'il ait été repris. Et repris en quatre itérations d'ateliers d'ailleurs, parce qu'il y a eu deux ateliers le mardi 9 avril qui ont informé deux autres ateliers qui ont eu lieu le vendredi 12 avril.
D'accord. Et ben justement, cet atelier, c'est ce dont on va parler. Et, est-ce que vous pouvez concrètement nous expliquer quel était son objectif ? Voilà, mémoire en partage, ça veut dire quoi ?
Ben justement, je pense que c'était vraiment de venir avec... Moi, certaines questions que je me posais, mais d'écouter et de... Alors, c'est vrai que dans notre métier, on a tendance à écouter, prendre des notes et puis retravailler les choses derrière. Là, ce qui était intéressant, c'est de mettre des gens autour d'une table d'horizons divers et de les faire s'écouter les uns les autres et ensuite réfléchir ensemble et construire quelque chose ensemble. Donc les ateliers, d'ailleurs Alain était là et y a participé, la première itération donc, du mardi, ont commencé avec toute une série de documents ou d'éléments sur la table et les personnes venues pouvaient soit s'inspirer de ces éléments, soit plonger dans leur, piocher dans leur... dans leur histoire personnelle pour partager un témoignage. Et la personne située à côté était chargée de collecter ce témoignage. Donc on avait déjà la perspective d'une autre personne qui entendait une histoire. Et à la suite de ces témoignages, donc, le groupe choisissait 3 témoignages et essayait de réfléchir à des outils de transmission. Soit pour transmettre ce témoignage, soit pour transmettre en général.
D'accord.
Et l'atelier du vendredi allait plus loin. On reprenait les idées d'outils et les groupes réfléchissaient ensemble sur comment les mettre en place, ce qui serait incroyable si on arrivait à intégrer tel ou tel élément dans un outil. Et voilà, au bout de 3 heures, on avait des rendus. Et c'était vraiment très, très intéressant de voir ces publics très divers qu'on peut avoir dans le cadre du Turfu réfléchir ensemble.
Et le Turfu a aussi, je suppose, cette ambition de, lors des ateliers, de poser les bases aussi de peut-être de nouveaux projets,
oui,
de nouvelles solutions. Alors là, dans quel cadre un peu plus général s'inscrivait l'atelier ?
Alors, contrairement à d'autres projets du Turfu qui sont qui peuvent être liés à des recherches universitaires, là. Ma démarche, donc j'ai une société de production, mais c'est vraiment peut-être. C'est pas du tout commercial. J'y viens, c'est peut-être plus du RSE, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, à la fois sur le débarquement, mais en règle générale, comment ne pas oublier et comment contextualiser ou comment faire communiquer différents éléments entre eux. Ça peut être à la fois une archive, ça peut être des interviews de témoins qui sont enregistrés, des archives orales, une fois qu'on n'aura plus de vétérans à disposition. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes pour une personne, mais qui peuvent aussi trouver une nouvelle vie et de nouveaux élans en étant partagé en petit. C'est une toile, je trouve, à partir de certains éléments, elle est beaucoup plus loin.
Ok, juste une petite... Interlude, toi Alain, tu as participé à l'atelier. Est-ce
oui,
que tu veux
fait.
Nous en dire un petit mot sur toi, ton ressenti, voilà, ce que tu avais à partager pendant cet atelier ?
Bah moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'abord, en arrivant, c'était quand même assez dirigé dans le sens où on avait plein de choses sur la guerre, le débarquement. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'habite dans un village qui a été le 6 juin et le 7 juin vraiment au cœur des combats avec les Canadiens. Je participe à plein d'activités avec la commune et tout ça. Et là, ce que j'entendais de gens assez âgés, comme l'ancien maire de Saint-Aubin, ou de gens très jeunes, c'était ça qui était assez étonnant et vachement intéressant, c'est qu'il y avait vraiment de tous les âges. Et on a eu des témoignages ou des anecdotes de gens plus âgés et plus jeunes. Et en fait, quelque part, la transmission, elle était déjà commencée. Parce que quand la jeune qui a parlé de son grand-père qui avait acheté une maison à Carpiquet, enfin un terrain à Carpiquet pour construire une maison, et qui tombe sur un bunker, et qui, au lieu de le détruire, comme ça se fait beaucoup pour construire, garde le bunker, en fait une espèce de mini-musée. Et... pendant les vacances, quand ces petits-enfants sont là, en plus, comme Carpiquet, c'est un lieu de mémoire où il y a beaucoup de vétérans qui passent de ça, il invite des gens à venir voir. Et au bout du compte, ils se sont aperçus, ils ont rencontré des Canadiens, ils sont devenus amis, etc. Et puis à un moment donné, ils parlent de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Puis ils disent, oui, ils habitaient près de Dieppe, un petit village. Alors, moi, je le connais parce que je suis au Normand, mais le truc, c'est une petite crotte de mouche sur la carte. Et ils se sont retrouvés avec des Canadiens et la famille de cette jeune fille, avec des ancêtres communs venus de ce village. Donc l'arrière-arrière-grand-mère était partie de ce village à côté de Dieppe au Canada, et elle rencontre la grand-mère qui, elle, était partie en Basse-Normandie à côté de Caen. Et ça, j'ai trouvé que la transmission, elle était quelque part, elle avait commencé parce que ça a marché, la transmission, dans la mesure où la jeune fille qui était là,
elle racontait ça comme, presque comme si elle avait vécu. Elle avait vécu une partie, mais le passé, quoi, le passé plus lointain. Et j'ai trouvé ça super intéressant.
Je pense qu'il y a des éléments déclencheurs, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, à voir ce qui nous peut nous intéresser, nous interpeller, faire en sorte qu'on crée et on ait nous-mêmes envie de le partager. On pourrait se dire, la mémoire, c'est juste de la nostalgie, les commémorations, c'est excluant, alors que ça peut l'être, d'ailleurs. Si on est juste dans un trip de faire un selfie avec un vétéran sans vouloir créer du lien, ça, c'est assez excluant. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça et de gens qui se relient. Moi, j'ai passé une partie de mon enfance dans un village qui s'appelle Saint-Aubin-sur-Mer, où des Canadiens aussi ont débarqué et des Anglais. Mais il y a un avion américain qui s'est crashé 4 jours après le débarquement et une personne qui allait devenir mère dans le futur avait 13 ans à l'époque et il avait été très marqué par cet avion. Des années plus tard, il ne savait pas ce qui était arrivé aux vétérans et on était juste au moment du 75e ou juste après, c'était le Covid. Et il trouve le nom de l'aviateur et il lance plusieurs personnes pour essayer de faire des recherches sur cet aviateur-là. Et moi qui suis très intéressée par les bibliothèques où je passe pas mal de temps, j'ai contacté la bibliothèque de la ville d'où venait cet aviateur. Il se trouve que la personne qui a répondu, donc on était dans le Michigan, cette personne me répond et me dit, il y a un Anglais qui fait des dessins, c'est un peintre, il fait des peintures d'avions, mais il m'a appelé à propos de ce soldat-là parce qu'il veut peindre son avion. Cette personne donc, que j'ai appelée en Angleterre à une femme qui est passionnée de généalogie, qui avait retrouvé la famille de l'aviateur. Et du coup, pour le 76e anniversaire du débarquement, alors que personne ne pouvait se réunir, on avait fait une soirée en ligne avec des plateformes et on avait 250 personnes, des Canadiens, des Anglais, des Français et la famille de cet aviateur américain qu'on avait pu retrouver. Et je trouve que on crée des liens et on partage un peu plus loin, on emmène cette histoire un peu plus loin. J'avais aussi j'avais pu parler à la cousine de cet aviateur qui n'avait que très peu de souvenirs parce qu'elle avait 5 ans quand il est mort. Elle se souvenait d'une chanson qu'ils chantaient ensemble à tue-tête dans la décapotable de son oncle. Et du coup, j'ai appelé une amie dont la fille chante très bien aux États-Unis. Et elle a accepté d'enregistrer cette chanson. Comme j'avais raconté l'histoire, elle a trouvé un adulte aussi. Et on a pu jouer ce duo pour la cousine qui était très, très émue. Et en fait, tout le monde était ému. Et c'est le genre d'événement qui font qu'on s'engage en tant qu'être humain, en tant que citoyen, au-delà de juste le souvenir d'une bataille militaire.
Parce que c'est des histoires qui nous touchent aussi.
Bien sûr.
Et justement, ça j'embraye sur ma question suivante, mais et aussi on le retrouve aussi dans le nom de l'atelier qui est Mémoire en partage au pluriel. Et finalement, on se rend compte que la mémoire, c'est aussi un petit peu la somme des mémoires individuelles. Alors ma question, c'est comment on passe de ces mémoires qui sont individuelles et qui peuvent être aussi fragiles parce qu'elles sont interprétatives, subjectives et puis assez fugaces quand les personnes en tant que telles disparaissent. Alors comment on passe de ces mémoires individuelles à la mémoire collective? Comment on fait?
Oula. Alors ça, c'est une grande question et peut-être plus pour des psychologues ou des sociologues. Je pense que la mémoire collective, elle se construit, elle se déconstruit aussi, elle évolue, elle n'est pas la même d'un moment à un autre et puis elle peut être spécifique à des groupes. On peut avoir une mémoire collective qui est un peu plus différente dans un lieu que dans un autre. Je sais que, par exemple, pour avoir grandi dans la région, on sait que le 6 juin, on ne planifie pas de rendez-vous, alors que dans certains endroits de Haute-Normandie que je ne citerai pas, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui m'appelaient « Vous êtes disponible le 6 juin ?» Ben non, mais on ne sait pas si loin, c'est aussi la Normandie. Et pourtant, la culture, l'approche et la façon dont on est affecté par la mémoire d'un événement est complètement différent. Après, je pense que ces mémoires-là ne sont jamais complètement figées. On peut les entretenir, on peut les enrichir. Et c'est là que ça devient aussi très intéressant. On peut participer à créer de nouveaux outils de mémoire. On peut engager des jeunes. Je travaille en ce moment sur des soldats qui malheureusement sont enterrés au cimetière américain de Colville. Et on a des outils qui nous permettent, des outils digitaux aussi, qui nous permettent d'aller piocher dans et en savoir un petit peu plus sur leur histoire et d'impliquer des jeunes dans ce processus fait que tout à coup, ils retiennent aussi beaucoup mieux et ils s'impliquent et ils se projettent plus.
Oui, mais vous parliez de nouveaux outils à déployer pour faire perdurer cette mémoire. Quels sont-ils et quelle place aussi aux outils numériques finalement dans notre époque ?
Je pense que les outils numériques facilitent dans un premier temps. C'est-à-dire que là où avant, pour faire des recherches et en savoir plus sur un soldat, il aurait fallu absolument se rendre sur place, que ce soit pour nous, enfin, pour les uns et pour les autres. Aujourd'hui, je peux de n'importe où aller me connecter sur des sites de généalogie et en apprendre beaucoup sur la famille. Voilà. Il y en a un, par exemple, sur lequel j'ai travaillé cette semaine. Il se trouve qu'il s'est marié en Irlande, je ne savais pas du tout, mais on peut avoir accès à plein de choses auxquelles on n'avait pas accès dans le passé. Après, je crois que le digital n'est pas tout. Il nous permet de partager déjà beaucoup de choses. Il nous permet de mettre en commun. Il nous permet de faire des rendus. Et ce qui m'a énormément interpellée dans les retours des jeunes dans les ateliers, c'était des outils immersifs ou digitaux, mais en premier abord. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport au son, par exemple. Tous disaient, on n'a pas envie de lire, mais faites-nous écouter. Racontons l'histoire. La radio, le podcast est venu très, très régulièrement dans beaucoup de propositions. Et pour autant, c'est un élément digital, mais le rapport à l'écoute
a changé,
mais nous relie également. Et pour pouvoir écouter, à un moment, il faut aussi se rencontrer, il faut partager, il faut aller voir les gens. Et ça, on peut faire des interviews en distanciel, mais ce n'est pas la même chose. Et puis, le ressenti qu'on a, on peut apprendre plein de choses et quand on va sur place.
Oui, c'est ça. Mais tout est complémentaire, finalement. OK. Merci beaucoup, Fanny. Je suis désolée, le temps passe vite.
Je suis bavarde, en plus.
Il n'y a pas de souci, mais je vous retiens juste une seconde parce que c'est vous qui allez m'aider à faire ma transition et lancer la chronique d'Alain. Est-ce que vous pourriez nous dire juste un petit mot sur les open badges qui ont été lancés dans le cadre du Turfu ?
Oui, alors les open badges, moi j'adore le concept, sont des outils de validation de la mémoire. C'est un peu comme un pins qu'on aurait pu avoir dans le passé en disant j'ai réussi, j'ai fait ça, ou une médaille qu'on vous donne après une bataille. Sauf que là, ils sont digitaux, on peut les mettre sur son CV, on peut les mettre sur LinkedIn. Et surtout, à l'intérieur de cet outil numérique, il y a des métadonnées qui valident l'expérience ou qui donne une marque de, je vais pas dire, une marque de sérieux.
Oui. Voilà. Sur une participation à un événement. Ok, très bien. Et donc toi, Alain, justement, les Open Badges, ça t'a inspiré une petite tribune au nom des 13 millions de bénévoles français.
Oui, tout à fait. Alors ma rubrique aujourd'hui porte sur le bénévolat et donc sur ceux qui l'exercent, les bénévoles. Alors je profite juste une petite parenthèse, c'est qu'à la fin de ma chronique, je vais parler aussi des open badges, donc je me répéterai un petit peu ce que Fanny vient de dire, peut-être compléter un petit peu. Vous vous demandez quel rapport il y a avec Turfu, patience, j'y viendrai plus tard. Avant de commencer, je citerai un extrait du discours d'inauguration du festival de la semaine acadienne en août 2023 de Madame Anne-Marie Philippot, maire de Courseulles. Le bénévole, espèce menacée à protéger. Le bénévole, Activus benevolus, est un mammifère que l'on rencontre surtout dans les associations. On le rencontre aussi dans des petits groupes, dans divers endroits, quelquefois tard le soir, l'œil hagard, le cheveu en bataille, le teint blafard, discutant ferme de la meilleure façon d'animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler un budget. Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de son temps, mais qui lui permet de régler les problèmes qui se posent au jour le jour. L'ennemi héréditaire du bénévole est le Yaka, non populaire, dont les origines n'ont pu à ce jour être déterminées. Cette petite citation pleine d'humour définit assez bien ce qu'est un bénévole. Là où le bénévole est en effet une personne sans laquelle un grand nombre d'actions, événements, manifestations seraient impossibles à organiser et à vivre. Une définition selon le Conseil économique, social et environnemental, plus institutionnel, souligne que le bénévole là est l'action de personne qui s'engage librement sur son temps personnel pour mener une action non rémunérée en direction d'autrui ou au bénéfice d'une cause ou d'un intérêt collectif. L'engagement bénévole contribue de ce fait à répondre à de multiples besoins dans le secteur social et caritatif des loisirs, du sport, de la culture, de la jeunesse, de la santé, l'aide aux malades, de l'environnement ou encore la solidarité internationale et de l'insertion. D'après association.gouv.fr, plus de 16 millions de bénévoles œuvraient en France en 2023, soit près de 23% de la population. D'autres sources avançaient jusqu'à 22 millions en 2017, mais peut-être que l'effet Covid a fait un petit peu baisser le nombre. Si on faisait comme fait la police ou les journalistes quand il y a des manifestations, on arriverait pas loin d'une vingtaine quand même de millions de bénévoles. On peut donc considérer qu'environ un quart de la population de notre pays est bénévole dans les secteurs cités précédemment. Beaucoup d'entre eux œuvrant pour plusieurs actions, événements et associations. Toutes et tous ces bénévoles, de par les fonctions qu'ils occupent, les stages, les formations qu'ils accomplissent, les événements tels le Turfu, possèdent ou acquièrent des compétences précieuses diverses et variées. Pourtant, souvent, elles, ils ne les mettent pas en valeur. Les Open Badge sont l'exemple de valorisation de ces acquis. Donc, je cite, j'ai repris ça sur le site de Turfu, « Un badge permet de reconnaître des apprentissages, des compétences, des participations, des réalisations, des rôles ou des personnes. Il permet aussi de connecter de nombreuses informations, une compétence avec des personnes, des ressources pédagogiques, des connaissances, des lieux, etc. » Objet technique simple qui peut être facilement mis en œuvre, ce concept de badge est donc apparu comme un élément de réponse à plusieurs questions soulevées par la reconnaissance de celles et ceux qui s'engagent, participent, initient, contribuent ou pilotent des programmes de recherche, participation et d'innovation populaire. Des attestations peuvent aussi être fournies par les associations et organismes afin de valoriser dans les CV, par exemple, les acquis des bénévoles, alors pas d'hésitation. En ce qui concerne les associations, coopératives, événements qui bénéficient de la présence et des compétences des bénévoles, il faut absolument mettre en valeur ce temps donné. Indiquez donc dans vos bilans ces heures et leurs coûts économisés. C'est ainsi que la puissance publique, les différents partenaires institutionnels ou mécènes prendront conscience que ce n'est pas seulement un nombre de personnes, mais aussi un poids économique et des actions qui ne seraient pas possibles sans les activus bénévolus, dont des modestes représentants sont assis autour de cette table et de ces micros afin de vous informer et de vous divertir.
Merci beaucoup Alain.
T'en prie.
Alors je vous propose d'enchaîner avec une nouvelle pause musicale en gaieté cette fois avec Zoufri Maracas et son « Sur quel pied danser ?».
Plein de pouces sur ma terre, même les oiseaux ont crevé. Plus assez de vers de terre, je sais plus sur quel pied danser. Plein de pouces sur ma terre, Monsanto a même stérilisé les pommes de terre. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Je sais plus sur quel pied danser, plein de pouces sur ma terre, les pesticides, les engrais ont pollué les rivières. Je sais plus sur quel pied danser, plein de pouces sur ma terre, les papillons au musée, les abeilles sont au cimetière. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre. L'aéroport va pousser, puis je suis pas aux têtes de l'air. Je sais plus sur quel pied danser, la SAFER fait ses affaires. Ils s'en vont m'exproprier pour construire un parc center. Danser, danser, sur quel pied, quand dans l'assiette, c'est la misère.
danser, danser sur quel pied, dans un monde qui ne veut pas s'en faire. Danser, danser sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Je sais plus sur quel pied danser, plein de poux sur ma terre, mes sols sont contaminés aux particules nucléaires. Je sais plus sur quel pied danser, j'en ai 400 depuis hier, puis j'ai jamais su danser, mais je danse puisqu'il n'y a plus que ça à faire. Danser, danser sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser sur quel pied, dans un monde qui veut pas s'en faire. Danser, danser.
Retour en direct sur Bonjour Turbine, où on explore le futur, le turfu, sur toutes ses coutures. Le temps de retrouver Lafken pour sa chronique Bazart, qui nous parle d'art et d'intelligence artificielle.
Bonjour les amis et bienvenue sur Chronique du futur absurde. Je suis votre hôte, le grand, le fantastique, le légendaire. Eh bien, disons juste que je suis ici. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un monde où l'intelligence artificielle règne suprême. Mais attention, pas de panique, on reste dans la bonne humeur, car après tout, l'avenir pourrait être aussi hilarant que déroutant. Imaginez un monde où votre grille-pain a plus de diplômes que vous, où même les pigeons de la rue discutent de physique quantique entre deux miettes de pain. Oui, mesdames et messieurs, bienvenue dans un futur où les IA ont pris le contrôle, et où les humains sont justes. Comment dire? Des accessoires décoratifs. Désormais, le café du coin n'est plus seulement un lieu de rencontre, mais un ring de débat entre barista et robot barista sur la qualité de la mousse de lait. Et attention au serveur, car si vous osez demander une pause café, c'est vous qui finirez au placard à balai, remplacé par un robot avec une conscience de service plus rapide qu'un éclair. Mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, même si nos amis les robots sont partout, il reste encore de la place pour l'absurdité humaine.
Et oui, comme vous venez de l'entendre, nous sommes dans le futur. Même les machines peuvent faire de la radio. J'ai pas dit qu'elle était bien. Aujourd'hui, dans le Bazart, on va parler de cette omniprésence que pourrait prendre l'IA dans le monde de l'art.
Oyez, foyez, entendez cette mélopée. Avant, il n'y avait que 10 heures majeures. Mais maintenant, voilà le 11e. C'est le bazar. C'est le bazar.
Nouveau jingle parfait. L'intelligence artificielle, l'IA. C'est ce qui propulse notre monde dans l'ère numérique de demain. Est-ce nouveau ? Non. Ce sujet existe depuis longtemps. Et le cinéma est le premier à l'avoir rendu antipathique avec des œuvres comme Terminator. Ou Skynet est une IA qui souhaite réduire l'humanité en esclavage ou la décimer car elle n'a plus de raison d'être. Ou bien HAL, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui, pour sa survie, va supprimer ceux qui en veulent à son intégrité. Mais on a aussi d'autres visions des choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez en fait du film La machine à explorer le temps, où un physicien, par amour pour une femme victime d'un accident, décide de fabriquer une machine pour voyager dans le passé. Ne parvenant pas à changer le cours des choses, il cherche des réponses dans le futur et fait la rencontre de Vox, une IA présente à la bibliothèque de Londres. Par la suite, il reverra de nouveau Vox en l'an 802 000 et discutera avec lui, signe que la machine le connaît et est capable de l'aider dans ses démarches. On aura aussi une autre vision des choses dans le film Transcendance, où Johnny Depp, sur son lit de mort, informatise son cerveau et sa conscience pour devenir une intelligence artificielle naturelle. Le film ne nous donne pas une réponse sur si cette intelligence est mauvaise ou non. Ce sera à vous de faire votre propre jugement sur ce futur possible. Dans le domaine de l'art pictural, on se retrouve aussi dans de nouveaux cas et problématiques, avec des robots qui apprennent et imitent le style de Rembrandt, par exemple, ou des machines qui peignent de l'art abstrait par leur propre envie. On se retrouve avec des œuvres en fait, qui ont été créées non pas par des entités organiques, mais par des entités non organiques. Cette fameuse question, en fait, c'est qu'est-ce qui fait une œuvre d'art ? Une œuvre d'art, eh ben, ça commence à devenir complexe. Une œuvre doit-elle être réalisée par un artiste biologiquement vivant ? Bah, si, pour vous, la réponse est oui. Alors considérez que des œuvres de Marcel Duchamp n'en sont pas. Il n'a fait que reprendre un objet, finalement, qui a été construit peut-être par une industrie. Si... Hop. Est-ce qu'une œuvre doit véhiculer un message ? Ce que font les machines, bah, est-ce que ça véhicule aussi un message ? Bah, oui, quand même. Il y a une interrogation autour de tout ça. En fait, une œuvre, est-ce qu'elle doit être signée ? Bah, certaines machines signent leurs œuvres. Toutes le font numériquement. Voilà quel est le problème en fait, que pose cet art créé par les machines. Qu'est-ce qui fait une œuvre quelque chose de forcément humain ? Je vous rassure, les humains ont encore leur rôle à jouer, pour l'instant tout du moins. Dans cet art numérique, vous avez peut-être entendu parler du prompt art. Cet art, c'est ce qui permet en fait, de générer un tableau à partir de mots-clés. Eh bien, il a encore besoin en fait, d'une présence humaine, même si petit à petit, l'IA génère elle-même ses propres mots-clés. Mais c'est pas encore très précis. Mais dans un avenir pas si lointain... Imaginez un futur où le scénario du film que vous allez voir a été créé par une IA. La musique composée par cette même IA, ainsi que les personnages, les décors, les bruitages, la voix, le montage et tout le reste. Si on se réfère aux expériences menées aujourd'hui, vous auriez un film digne d'une cacophonie de John Cage. Ce serait incompréhensible et incohérent, mais le coût minime comparé à aujourd'hui. En fait, beaucoup de scénaristes utilisent des IA comme ChatGPT pour générer des idées de base. Ensuite, ils créent le reste autour. Pour la musique, bah on est en plein dedans. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Suno, S-U-N-O, une IA qui vous permet de créer de la musique et de vocaliser un texte que l'on aurait créé en amont. Un exemple ? Allez, on s'écoute ça. C'est épique. Après tout ça, bah, je commence à me demander si le 12e art majeur, après le bazar, bah, ce serait pas l'IAR. Je vous laisse méditer là-dessus.
Voilà, là, c'est décontenançant tout ça, je trouve. Alors, il nous reste quand même un petit peu de temps et justement, on va profiter de ta présence et de tes qualités de spécialiste en tant que grand connaisseur de l'IA. Rapidement, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que vraiment l'IA, mais alors avec tes propres mots ?
Alors en fait, l'IA, même avec mes propres mots ou de manière générale, c'est le principe de l'intelligence artificielle. Alors d'où ça vient en fait ? C'est un peu le principe de ce qu'on appelait le machine learning. C'est que vous aviez deux machines qui discutaient entre elles et qui ont fini par apprendre par elles-mêmes. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler un petit peu d'IA, on est encore très loin du côté de Skynet et autres, il y a toujours une présence humaine. Le jour où on aura une IA vraiment qui pense par elle-même, ce jour-là, bah, on aura peut-être des petites questions à se poser. Mais on n'y est pas encore. Donc aujourd'hui, on va dire que l'IA, c'est tout simplement une manière à la machine de pouvoir réfléchir sur deux, trois idées et pouvoir vous accompagner sur des sujets.
Alors on va peut-être refaire un petit bond en arrière. La première fois où on entend parler d'IA, c'était dans les années 50.
Même plus loin.
Même peut-être. Moi, j'ai vu 47. Alors, peut-être que tu as une précision.
Bah, après, effectivement, il y a beaucoup d'écrivains qui commençaient déjà à réfléchir un petit peu à toute cette idée-là, avec tout ce qui était autour de la robotique et sachant que le mot robot, d'ailleurs, vient du mot esclave en russe. Et bah, cette idée de l'IA, on peut même la retrouver. Vous avez des films comme Cosmopolis d'il y a très longtemps. Je parlais effectivement de toute cette série un peu SF. Et on va la retrouver un peu partout dans l'histoire, et surtout dans l'histoire des médias et du cinéma qui s'en est fait mais un grand plaisir.
Ils s'en sont donnés à cœur joie, justement, oui. Je rebondirai tout à l'heure là-dessus. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que on en entend vraiment beaucoup parler ces 2-3 dernières années, alors que ça fait quand même des dizaines d'années que c'est présent, même et que ça a un impact dans notre quotidien.
Alors, en fait, il y a des dizaines d'années... peut-être un peu moins, il y a eu pas mal de petites expériences, mais c'était des petits tests. Il n'y avait pas beaucoup de développeurs en fait, qui s'amusaient vraiment à travailler autour de ça. Vous avez eu par exemple une IA qui a été lâchée sur Twitter et qui en moins de 48 heures est devenue néo-nazie. Voilà. Donc ça a montré un petit peu le début de l'IA, son apprentissage par elle-même, qui était un peu catastrophique. Et ces dernières années, en fait, il y a de plus en plus de développeurs qui ont compris comment travailler correctement, essayer d'avoir des choses où on a un petit peu des garde-fous. Et en plus de ça, vous avez d'autres entreprises comme Google qui sont en train de mettre en place l'ordinateur quantique. Donc c'est quelque chose qui, potentiellement, si on en parlait il y a 20 ans, on aurait dit « ouais, on verra ça peut-être dans 50 ou un siècle ». Alors que là, potentiellement, l'ordinateur quantique, il est présent. C'est encore un peu galère, mais il est présent déjà dans les ordinateurs de Google. Et l'IA va très vite se développer grâce à ça.
Tu peux préciser peut-être ce que c'est qu'un ordinateur quantique ?
Un ordinateur quantique ? Ouh, alors on est parti pour des heures. Alors non, l'ordinateur
en synthétisant.
L'ordinateur quantique, en fait, c'est... il faut imaginer en fait un ordinateur qui va être moins 1000 fois plus puissant que les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Il va réfléchir beaucoup plus vite, il va calculer avec cette idée un petit peu dans le principe de chat du Schrödinger. Il ne va pas forcément penser qu'avec des oui ou des non, il va penser avec plein de choses différentes. En même temps, il va faire des probabilités et il va faire un truc monstrueux. Donc l'ordinateur quantique, c'est un truc qui est super complexe. Et avec cette arrivée-là, il y a aussi toute cette idée aussi de ce qu'on appelle le Web 3.0 où l'IA va avoir une grande place. Donc vous avez de plus en plus de chatbots avec qui discuter et aussi des facilitateurs comme ChatGPT.
Alors justement, tu parles des chatbots. L'une des questions qu'on se pose quand même, qui est assez récurrente, c'est quel rapport on doit entretenir avec justement cette intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on doit la considérer? Est-ce que ça doit être plutôt un allié ou un concurrent qui peut prendre notre job? Je pense à l'application Midjourney, par exemple, qui peut remplacer le travail des graphistes. Qu'est-ce qu'on en dit de tout ça?
Alors Midjourney, elle a beaucoup fait parler d'elle pendant longtemps. Là, aujourd'hui, en fait... j'ai envie de dire que les gens finalement la mettent un peu au placard parce qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi bien et beaucoup plus faciles d'accès. C'est un peu la question qui s'était aussi posée lorsque on a tout le côté un peu usine qui est arrivé avec les machines. Effectivement, il y a beaucoup d'emplois qui ont été perdus à cause de ces machines, mais il y a aussi des nouveaux jobs qui ont été créés avec ces machines-là. Et ça, c'est un peu comme un marteau au final, c'est un outil. C'est à vous de voir en fait comment on va utiliser cet outil. Là, j'ai même vu justement cette information il y a très peu de temps. Il y a des nouveaux jobs qui sont créés où en fait, comme je parlais tout à l'heure, le fameuse histoire du prompt art et du prompt engineering, il y a des gens qui maintenant sont recrutés pour faire des mots-clés pour pouvoir faciliter le travail en entreprise. Donc on arrive sur des métiers qui n'existaient pas. Où pour le coup, il n'y a même pas de formation qui existe. Donc, c'est des jobs qui se créent et qui sont très, très bien payés. Donc, si jamais vous recherchez un boulot, n'hésitez pas à regarder le prompt engineering. Passez des heures devant un ordinateur à tout apprendre et vous avez une offre mais colossale en fait, d'emploi pour ce truc qui est nouveau. Donc, au final, ça crée de l'emploi. Et pour les illustrateurs... Alors ça, c'était un cas un peu à part. Hein. Donc ça, nous, on en a parlé à la Microfolie. On a toute une médiation autour de ça. Et Midjourney avait beaucoup fait parler de lui parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont dit « Bah ouais, mais il a repris mes tableaux, il a retravaillé tout ça, c'est un peu trop facile. » Et les créateurs de Midjourney ont essayé de limiter un peu la casse. Mais le problème, c'est qu'ils ont lâché quelque chose qui va se nourrir de tout ce qui est Internet. Donc tout ce qui va être image existante, il va récupérer, il va créer quelque chose, un amalgame. Et là où les gens ont tiqué un peu, c'est quand ils ont retrouvé leur signature sur un tableau qu'ils n'avaient jamais fait. Voilà, donc comme quoi, même l'intelligence artificielle peut signer ces tableaux. Donc au final, on reconnaîtra toujours un petit peu une patte d'un artiste, un vrai, qui va créer quelque chose, un illustrateur qui va pouvoir ajouter un peu son âme dedans et dans ce que vous souhaitez. d'un artiste illustrateur machine qui, lui, pour l'instant, a encore quelque chose de non organique qui manque encore un peu de précision.
Et alors, tu as fait beaucoup de rapports entre l'IA et le cinéma tout à l'heure.
Ouais.
D'ailleurs, tu n'as pas cité Heure, qui est quand même assez incroyable aussi, sur cette idée de manipulation de l'être humain par l'intelligence artificielle. Justement, est-ce qu'il y a un risque que les IA prennent le contrôle? Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour débrancher la machine?
Alors ça, bah, c'est un peu toute la question. Vous avez ce qu'on appelle les singularistes dans le milieu scientifique, où c'est cette idée que si un jour l'IA arrive à un point de non-retour, eh bah, elle peut très bien décider de prendre le contrôle et de mettre l'humanité à bas. Donc ça, vous avez ce que je citais tout à l'heure, c'est l'exemple de Skynet. Skynet, c'est un petit peu cette intelligence artificielle qui est mauvaise. Il y avait une autre histoire qui était, que je trouve très intéressante, qui est le basilic de Roscoe. C'est un scientifique qui s'est posé la question, c'est imaginer en fait une IA qui, au moment où elle arrive, décide de se venger de tous les humains qui n'ont pas fait en sorte qu'elle arrive plus tôt et qui choisit en fait de virtualiser votre conscience pour vous torturer jusqu'à la fin des temps. Wow. Donc tout le monde effectivement s'est dit, mon Dieu, mais c'est catastrophique. Mais en fait, bah, ce postulat partait aussi du principe, imaginez en fait si cette IA peut supprimer toutes les maladies sur Terre, si elle peut supprimer tout ce qui est faim, toute famine, et que la paix et tout soit existant, et qu'en fait elle est juste là en disant, à cause de vous, vous auriez pu me faire arriver plus vite, mais ce n'est pas le cas, donc du coup bah, je vous punis parce qu'à cause de vous, il y a beaucoup de millions de personnes qui sont mortes parce que j'aurais pu arriver plus tôt. Et là, en fait, on est sur un cadre de conscience qui a beaucoup fait parler d'eux, où il y en a beaucoup qui ont aussi bah, un petit peu tiqué. Et le postulat de base était, bah, si vous êtes au courant de cette histoire, vous devez faire en sorte que cette IA arrive. Désolé, je vous écoute tous condamnés, du coup. Je plaisante. Mais en tout cas, bah, c'est un truc qui est super intéressant, c'est que l'IA, on peut l'avoir comme quelque chose de très négatif, comme quelque chose de très positif. Ça dépend, encore une fois, comment elle est utilisée. C'est, si jamais on met les bons garde-fous et qu'on se concentre sur quelque chose d'intéressant, on devrait, je pense, partir sur des choses même parfois un peu loufoques plus qu'autre chose pour l'instant.
Et alors, il reste 30 secondes pour répondre à cette question. Est-ce que tu pourrais nous citer des IA, nous conseiller des IA si on veut tester sur le milieu musical, du graphisme ou de l'écriture,
alors,
par exemple?
Du coup, je vais vous citer les trois. Je vais vous citer Suno, avec qui on peut faire vraiment plein de trucs de musique. Vous pouvez même le combiner avec ChatGPT pour créer des paroles ou même discuter avec ChatGPT. Et vous pouvez même utiliser Leonardo.ai qui vous permet de générer des images. Et avec ces trois-là, eh ben, vous pouvez même faire des super albums. Voilà.
Merci Lafken et merci Thomas. Thomas, je te garde et je te relance pour une dernière petite CPV, s'il te plaît.
Alors oui, et si l'on donnait des droits à notre fleuve Bas-Normand? C'est la question que souhaite explorer le projet Nous sommes Orne, porté par Territoires Pionniers, les CPIE de la Vallée de l'Orne et des Collines Normandes, le Pavillon de Caen et le Dôme. Alors le projet il s'appuie sur la dynamique internationale de reconnaissance des droits des fleuves et fait écho à des expérimentations voisines et similaires telles que le Parlement de la Loire, l'Assemblée Populaire du Rhône ou encore les Atlas de l'Association Eau et Rivières de Bretagne. Nous sommes Orne porte ainsi une démarche collective pour donner une voix au fleuve Orne, à ses affluents et défendre leurs intérêts, mais aussi pour créer une culture commune autour de ce bassin versant et imaginer de nouvelles façons de cohabiter et de sensibiliser aux interrelations existantes entre tous les êtres qui y vivent, humains et non humains.
Des droits au fleuve, c'est une belle perspective pour le futur. Merci Thomas pour cette dernière capsule au fil de l'eau qui nous amène donc au terme de cette émission de Bonjour Turbine. Merci à notre invitée Fanny Hubbard-Salmon, fondatrice et directrice créative de Fulfilled Agency et animatrice de l'atelier Mémoire en partage organisé dans le cadre du Futurfu Festival. Ce soir, notre comité de rédaction était composé de Thomas, David, Lafken et Alain. Marion était une fois de plus à la technique. Quant à moi, j'ai été votre fidèle serviteur à l'animation de cette émission que vous pourrez retrouver en podcast sur Station B, les audioblogs d'Arte, Spotify et Deezer avec toutes les infos et liens utiles au thème de ce soir. Merci encore, très belle soirée à tous et on se retrouve jeudi 2 mai pour la 62e. À plus dans le Turfu.